voudrais vous raconter l'histoire de l'art contemporain, ou plutôt l'histoire d'une femme. Mais entendons-nous bien, pas une femme au sens où cette femme serait née femme, aurait été assignée à résidence genrée par Madame la Nature. Pas non plus une femme au sens de cet objet, obligée de correspondre au désir des hommes, ou pire, au désir des peintres. Une femme qui accepterait de rester bien sagement à sa place dans le tableau, comme d'autres restent en cuisine, quand elles ne sont pas enfermées à double tour par un mari jaloux. Non, une femme qui, par l'art, par son art, s'est inventée, faisant de sa vie et de son œuvre une performance totale, faisant de son corps, mais de son corps augmenté, opéré, greffé, hybridé, de son corps choisi, une œuvre d'art. Les opérations de chirurgie filmées et diffusées en live relevant elles aussi de l'œuvre, de la performance artistique. Quand l'art devient ainsi performance, quand l'art a l'ambition d'être ainsi total, tout à la fois sculpture, photographie, vidéo, intelligence artificielle, robotique, chirurgie, il ne s'agit plus d'être beau, mais au contraire de questionner les normes de la beauté, comme autant de cadres limitants, étroits, et de se demander comment on peut se prétendre artiste tout en restant bien au chaud dans les limites de ce cadre. Il ne s'agit plus de viser le beau, mais la transformation, la production de nouveaux affects et de nouvelles identités, une invention et même une production de soi arrachée à la vulgate psychologisante pour devenir réel, matériel, charnel, mais en un sens redéfini, charnel et technologique à la fois, techno-charnel pourrait-on oser. Voilà le programme de l'existentialisme sartrien, celui de l'invention de soi, d'une existence refusant de se laisser définir et essentialiser. Voilà l'existentialisme sartrien, devenu performance d'art contemporain. Spinoza avait raison, nous ne savons pas ce que peut le corps, et nous le savons encore moins lorsque ce corps est augmenté, opéré, choisi, réinventé, hybridé, offert à tous les possibles humains et technologiques de sa multiplicité. Les dandys voulaient faire de leur vie une œuvre d'art, mais ils se sont contentés de revêtir leur corps de vêtements insolents et de peindre les murs de leur salon de couleurs improbables. Petit joueur, ces dandys. Elle veut faire de sa vie et de son corps une œuvre d'art. Mais est-ce possible? Que reste-t-il alors de l'humanisme du monde d'avant? Cet humanisme des limites et de la modération. L'art peut-il vraiment être total? Pour en parler ce matin, j'ai le plaisir et l'honneur de recevoir cet artiste que vous avez reconnu, Orlan. Orlan en lettres capitales pour ne pas rester dans le cadre. Orlan qui a changé jusqu'à sa date de naissance son nom et son prénom pour n'être que devenir et réussir à s'inventer. Orlan, un des visages les plus reconnaissables de l'art contemporain aujourd'hui, qui vient de sortir son manifeste, le Manifeste Orlan, en accompagnement d'une exposition phare aux abattoirs de Toulouse et qui présente tout l'été au musée Picasso de Paris « Les femmes qui pleurent sont en colère ». Orlan, donc, qui nous a rejoints sous le soleil de Platon, dans la caverne de France Inter, pour nous aider à répondre à cette belle question, l'art peut-il vraiment être total?
Sous le soleil de Platon, Charles Pépin sur France Inter.
Bonjour Orlan.
Bonjour.
Merci beaucoup d'avoir accepté mon invitation.
Eh bien, merci de m'avoir invité parce que vous savez, mes détracteurs disent que je suis une artiste plus philosophe qu'artiste, que je suis une artiste plus sociologue qu'artiste, que je suis une artiste plus activiste qu'artiste. Donc, venir en philo avec vous m'intéresse vraiment beaucoup.
Mais c'est pas une insulte hein, d'être plus philosophe
qu'artiste. Ah non, 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 non.
Alors, je vous ai senti paradoxalement tiquer un petit peu quand je parlais d'artiste total.
Il faut d'abord que je vous dise que moi, je suis une artiste qui n'est absolument pas assujettie à un matériau, à une pratique artistique, à une technique ou à une technologie, qu'elle soit nouvelle ou ancienne. Ce que je veux, c'est dire des choses importantes, j'ai cette prétention, pour mon époque, en interrogeant des phénomènes de société, en me situant. Et donc, je dis toujours « je suis » et non pas « je sommes », parce que je considère que je suis fabriqué absolument par tout ce qui s'est passé avant moi, mais aussi par mon environnement, par tout. Et donc, ce « je sommes » fait aussi qu'au niveau de l'identité, Moi, je suis pour les identités nomades, mutantes, mouvantes, et pas les identités fixes. Donc voilà comment je peux me signaler. Et effectivement, quand j'attaque un phénomène de société, j'en ai attaqué beaucoup, dont le harcèlement du football, dont la beauté, dont la chirurgie esthétique, dont beaucoup d'autres choses. Et ici, j'aimerais bientôt attaquer les influenceurs et les influenceuses qui me paraissent vraiment faire un sale boulot. Et donc, une fois que j'ai vraiment travaillé, moi je ne fais jamais d'œuvre spontanée, eh bien je me demande de quelle manière je vais pouvoir dire cette chose.
C'est ça qui est passionnant dans votre cas. Parfois le matériel c'est la sculpture, parfois c'est la photographie, parfois c'est la chirurgie sur votre propre corps.
C'est élever ma flore intestinale, buccale et autres.
Vaginale.
C'est cultiver mes cellules. C'est faire un robot qui est une sculpture mouvante, qui est un générateur de texte, un générateur de mouvement, qui parle avec ma voix. C'est faire de la réalité augmentée. Je m'intéresse beaucoup à tout ce qui est nouvelle technologie parce que j'aime vivre mon époque tout en gardant une distance critique.
Voilà, c'est ça exactement, Orlan, de l'hybridation, de l'inventivité permanente, avec évidemment un propos, c'est-à-dire de la déconstruction, de la dénonciation. Je rappelle quand même pour les auditeurs quelques étapes. Alors ça fait tellement longtemps que vous faites de l'art, c'est difficile de tout résumer, mais je rappelle quelques étapes importantes qui permettront peut-être d'avoir de la réminiscence. En 1966, la tentative de sortir du cadre. En 1977, le baiser de l'artiste. Vous êtes dans la rue et vous vendez un baiser, un French kiss.
Pas dans la rue.
Vous êtes où ?
Je suis au Grand Palais.
Oui, je pensais que c'était devant le Grand Palais.
Et c'était un French kiss avec la langue au Grand Palais, ça coulait de source.
À 5 francs à l'époque.
Oui, et j'ai beaucoup pour commenter actuellement.
Ouais, j'en doute pas. En 1989, l'origine du monde revisitée en origine de la guerre, où cette fois on voit un homme qui écarte les jambes et on a un gros plan comme ça sur son sexe, un sexe de taille moyenne, on va en parler après. Le manifeste de l'art charnel des années 90. Bon voilà, il y a plein de choses. Mais j'ai une question à vous poser quand même. C'est que, pour moi, vous inviter, c'est aussi, au fond, essayer de comprendre peut-être ce qui distingue l'art contemporain de ce qu'a été l'art dans les siècles passés. L'art des siècles passés, vous l'accueillez, vous le digérez, vous le remixez. Mais quand même, il y a cette notion de performance. Il y a aussi une notion de discours. Et le philosophe Hegel, dans son livre génial, L'esthétique, disait déjà, attention, il va y avoir un moment où le discours sur l'art va l'emporter sur l'art, où le souci du beau va être balayé par un discours, parce qu'on sera devenu trop intellectuel. Est-ce que finalement, vous ne montrez pas que c'est vrai, que Hegel avait raison ?
Non, je démontre le contraire. Moi, en fait, je suis art sexuel et je suis sapiosexuel. Et quand je vois une œuvre, c'est la même chose. C'est-à-dire que j'ai absolument besoin de savoir ce qui se passe là, d'avoir étudié, et j'en jouis plus. J'ai une émotion esthétique beaucoup plus grande,
oui,
parce que je sais. C'est-à-dire que moi, je suis quelqu'un qui veut savoir et qui ne veut pas croire. Et donc, cette espèce d'émotion esthétique qu'on pourrait normalement avoir en direct comme ça avec l'œuvre, me paraît absolument surfaite, me paraît une chose qui n'existe pas, ou quand elle existe mal. Par exemple, je suis allé voir les primitifs flamands très jeunes, et je ne savais rien à cette époque-là sur les primitifs flamands. J'ai eu beaucoup de plaisir, mais quand je suis revenu après avoir étudié ce qu'étaient les primitifs flamands, ce qu'ils ont voulu faire, comment, etc., eh bien, quand je suis revenu, j'ai eu au contraire beaucoup plus d'émotions esthétiques, parce que je ne me sentais pas dépourvu d'entrée, de pont avec l'œuvre.
C'est très important.
Et donc, ça, pour moi, c'est vraiment très, très important. En fait, je suis quelqu'un qui est une éternelle étudiante, je suis toujours en éveil et je suis absolument contre ce qui peut-être nous englobe à l'heure actuelle, l'idiocratie, le fait du refus du savoir, le refus du passé, etc. Donc, moi, je suis à cet endroit, quoi. Vraiment, pour moi, l'extase intellectuelle favorise justement la beauté. Je pourrais dire ce que disait Pasteur, il disait que la chance science ne sourit qu'aux esprits éclairés ou aux bien préparés.
Aux esprits préparés, oui.
Bien préparés. Et donc,
l'émotion ne sourit qu'à celui qui est préparé par le savoir et la connaissance.
Voilà. L'émotion et la beauté ne peuvent surgir qu'à ce moment-là, quoi.
C'est très important que vous apportiez cette précision, parce que si justement on connaît mal votre travail, et si on connaît mal l'art contemporain, et si on tombe sur votre manifeste, là, le Orlan manifeste, et sur des photos de performance, on peut se dire justement que cette émotion sensuelle et esthétique au sens classique n'est plus de ce que vous proposez, que c'est devenu de la performance, de la proposition, qui fait réfléchir, qui trouble, qui perturbe, et heureusement, vous remettez les points sur les i en disant, mais non, c'est un autre chemin vers l'émotion, et c'est vrai que c'est important de le préciser. On va écouter ce que vous aviez dit en 1977 concernant...
J'ai peut-être dit des bêtises.
Ben justement, c'était ma question. Concernant ce baiser de la femme, ce French kiss que vous offriez donc au Grand Palais pour le prix de 5 francs.
Le baiser de l'artiste.
Et en quoi le baiser est-il une œuvre d'art ?
À l'heure actuelle, si vous voulez, l'art a changé quand même beaucoup. Il n'est plus du tout comme au 19e siècle et c'est plus toute une réflexion et sur l'histoire de l'art qui tout à coup produit quelque chose en nous ou une réflexion sur l'art dans la société, etc. Donc il faut voir, si vous voulez, ma démarche, non pas comme uniquement un gadget, mais toute une réflexion sur justement la position de l'art et de l'artiste et du corps de la femme à l'heure actuelle et dans la société. Et pour moi, le corps de la femme est un matériau nouveau.
Alors, Orlan, est-ce que vous êtes d'accord avec Orlan 1977 ?
Oui, en partie, mais je pourrais peut-être développer beaucoup de choses. En fait, ce qui est vraiment important pour moi, et à tort ou à raison, pratiquement toutes mes œuvres naissent de lectures ou naissent de textes que j'écris et qui sont des manifestes. Mmh. Et donc, j'ai écrit le manifeste de l'art charnel pour me différencier de l'art corporel, par exemple, quand j'ai fait les opérations chirurgicales. Mais là,
notamment, je vous interromps parce qu'on ne vous voit pas là, mais vous avez notamment, parmi toutes ces hybridations, des sortes, comment dire ça, des cornes un peu,
des bosses.
Des bosses qui sont comme ça greffées sur les parties latérales de votre front et qui semblent un peu élargir votre regard et vos yeux.
Alors c'est bien que vous me décriviez, parce qu'effectivement pour ceux qui ne m'ont jamais vu ou qui ne me voient pas, on peut penser que je suis une femme absolument abominable, indésirable, avec deux bosses sur les tempes. Et en fait, si on me voit, ça peut changer. C'est parfois tout à fait même différent. C'est devenu des organes de séduction. C'est devenu ma décapotable. Donc, bien ce sûr. Qui est vraiment important pour moi, c'est toujours de dérégler les choses. Et en ce qui concerne les opérations chirurgicales, j'ai utilisé la chirurgie esthétique, mais pour en faire complètement autre chose, pour la sortir de ses habitudes. Les opérations que j'ai fait faire en mettant des implants qui sont habituellement mis sur les pommettes pour les rehausser, oui. Et que j'ai fait mettre de chaque côté des tempes, en fait, c'était pour faire une opération qui n'était pas censée apporter de la beauté, mais au contraire, de la laideur, de la monstruosité. Au départ, il y a eu vraiment une violence extraordinaire contre moi, en disant que c'était pas de l'art, et que c'était n'importe quoi, et que j'étais folle, etc. Ce qu'on dit toujours quand des artistes font des choses qui ne sont pas prévues au programme. Mais au final, donc, tout c'est absolument... souvent, on me dit « Oh, Orlan, comme tu es belle !» Je dis « Attendez, vous m'avez mal regardé. Là, vous m'avez mal regardé. Vous avez vu que j'ai deux bosses sur les tempes. » Et on me dit « Oh, mais ça te va très bien !» Vous voyez, donc, aussi, si on dit trop tôt « Elle tourne », on peut avoir des problèmes.
Mais en fait, bien sûr, je comprends bien l'idée, c'est que la chirurgie esthétique, d'habitude, elle est normative et elle plaque le même visage, la même bouche de canard, les mêmes traits tirés sur toutes ces femmes qui, au fait, disparaissent dans leur singularité. Vous avez voulu montrer le contraire. Lorsque vous dites « c'était monstrueux », alors on entend très probablement le monstrueux, à la fois en son sens étymologique et aussi contemporain, au sens, par exemple, où Paul B. Preciado l'emploie en disant « le monstre est celui qui vit en transition ». Celui dont le visage, le corps et les pratiques ne peuvent encore être considérés comme vrais dans un régime de savoir et de pouvoir déterminé. Autrement dit, on appelle ça monstrueux parce qu'on n'a pas encore compris que c'était une beauté singulière, que c'était quelque chose de nouveau. Et puis vous dites, voilà, l'art doit déranger. Ça me fait penser à cette belle phrase de René Char, dont je sais que vous l'appréciez. « Celui qui vient au monde pour ne rien troubler ne mérite ni égard, ni patience. » Au fond, ce que vous voulez nous montrer, c'est que vivre vraiment, c'est toujours troubler l'ordre.
Oui, et même son propre ordre. Hein, penser, c'est toujours penser contre soi. Et ne jamais en rester là. Toujours essayer de se déranger soi-même. C'est-à-dire de s'émanciper et à la fois de tout le formatage qu'on a eu, mais aussi de nos propres formatages, de nos propres assurances. Donc moi, j'aime beaucoup les débats vifs, très vifs.
Il s'agit de troubler l'ordre intérieur, de troubler l'équilibre psychique, de troubler aussi l'ordre social. Mais finalement, de ce point de vue-là, vous vous inscrivez quand même dans toute la tradition des avant-gardes du XXe siècle qui se prolonge maintenant, où il s'agit quand même toujours à la fois de rompre tout en récupérant quelque chose du passé.
Oui, en tout cas, moi, ce qui est vraiment important, c'est que les artistes soient responsables, de leurs actes, responsables des conséquences de leurs actes. Alors que, effectivement, moi, je ne suis pas du tout une artiste qui cherche la même relation qu'elle avait avec sa mère quand elle faisait dans son pot et qu'elle le portait à la mère. Et la mère disait « Oh, comme t'as bien fait, oh, comme t'es gentille, comment tu as bien fait, et vraiment ta mère t'aime ». Et donc, en général, la plupart des artistes recherchent cette relation avec la mère. Ça sort de moi, donc c'est forcément voilà. Magnifique, et je suis forcément quelqu'un de grand, et on va m'aimer et on va m'acheter.
Mais qu'on comprenne bien, vous, ce que vous montrez, c'est que voilà, l'art, c'est pas un truc qui sort de moi, c'est quelque chose que j'invente, que je compose avec quelque chose aussi d'artificiel et au sens noble. C'est ça que vous voulez dire?
Voilà, comme je le construis, comme j'ai été construite et comme je me suis déconstruit et comme je me reconstruis.
C'était Björk, Human Behavior.
Elle est géniale.
Sous le soleil de Platon.
Nous avons l'art pour ne pas mourir de la vérité. Nietzsche.
Charles Pépin. Sur France Inter.
Nous sommes toujours toujours avec... c'est ma phrase préférée.
Bah ouais, c'est pour ça que je vous l'ai préparée. Et surtout, elle est dite par un robot, vous avez remarqué.
Oui.
Nous avons l'art pour ne pas mourir de la vérité. Alors, Orlan,
c'est quel robot ?
Un robot Google. Dis Google, qu'est-ce qu'a dit Nietzsche ? Nietzsche a dit nous avons l'art pour ne pas mourir de la vérité. Alors, Orlan, c'est vraiment un plaisir de vous rencontrer. Donc, vous êtes un des visages les plus repérés, les plus reconnaissables de l'art contemporain. Vous avez d'ailleurs énormément de reconnaissance, on en parlera après. Mais je précise quand même que vous avez trois actualités en ce moment pour qu'on vous situe. D'abord, une énorme exposition à Toulouse aux abattoirs qui s'appelle Corps et Sculpture et qui est l'occasion pour vous d'avoir posé ce manifeste, le Orlan Manifeste. Ensuite, au Musée Picasso, les femmes qui pleurent sont en colère. Et aussi, tout ça c'est pendant l'été, à Arles, une exposition de photos, de vos photographies à l'occasion de l'exposition La Révolution Féministe des années 70. Eh bien, dans tout ça, j'ai l'impression qu'il y a un point commun, comme d'ailleurs dans tout votre chemin d'artiste, c'est une extrême méfiance à l'égard de la nature, voire peut-être, et c'est pour ça que je vous avais sur ce plan-là comparé au dandy du siècle passé, voire peut-être une haine de la nature. Ça me fait penser à ce que disait Huysmans dans Un Rebours, je crois que c'est lui, à moins que ce soit Baudelaire, qui dit « il faudrait toujours qu'un appartement de bon goût soit orange, parce que le orange est la seule couleur qu'on ne trouve jamais dans la nature ».
Et si on trouve des oranges ?
Oui, bah c'est ce que m'a dit aussi la réalisatrice que j'ai préparé à l'émission. Elle m'a dit, mais pas du tout, il y a des fleurs oranges. Moi, j'y peux rien, moi, Huysmans.
Il y a des fruits oranges. Oui, alors il s'est trompé vraiment. Hein, comme quoi, même les grands disent des bêtises. Il faut se méfier.
Non, mais je pense qu'il pensait aux oranges très pop, ça va être très 70s. Je pense que nous, il y a du jaune orangé. Enfin, en tout cas, l'idée, c'était que, il y a aussi ça dans chez le critique d'art Baudelaire, c'est que la nature, c'est, au fond, c'est répugnant. Et ce qui est intéressant, c'est de s'arracher à la naturalité.
Et puis, c'est tueur, la nature. Les tsunamis, la trop grande chaleur qui peut vraiment faire mourir toutes les cultures, etc. Les tremblements de terre, c'est les cyclones, et puis the life is a killer, disait Jean Giono. Et vraiment, c'est terrible, quoi, parce que c'est vraiment un serial killer grave, quoi, et sadique.
Et c'est ça qui est très singulier dans votre position. Vous avez plutôt l'impression que le salut viendra de la technologie, de l'hybridation, du post-humain au fond ?
Je suis ni technophile ni technophobe. Il y a, pour moi, effectivement, je ne parlerai pas de post-humain, mais je parlerai d'alter-humain. Parce que là, pour le moment, on est en train de nous culpabiliser de quelque chose qui est très bizarre, parce que en tant qu'être humain, nous avons des facultés qui sont différentes de celles des animaux, bien qu'on nous traite toujours d'animal. Et nous avons la possibilité de nous réinventer, de nous refabriquer, de nous resculpter et de mettre en question la nature. Et ça fait partie de l'inné, ça fait partie de notre nature.
Donc c'est notre nature, c'est de n'avoir pas de nature.
Notre nature, c'est de nous repenser, de nous refabriquer et de pouvoir utiliser toutes les avancées technologiques.
Notre nature, disait Sartre, c'est de nous réinventer.
Qu'est-ce que signifie ici que l'existence précède l'essence ? Cela signifie que l'homme existe d'abord, se rencontre, surgit dans le monde, et qu'il se définit après. L'homme, tel que le conçoit l'existentialiste, s'il n'est pas définissable, c'est qu'il n'est d'abord rien. Il ne sera qu'ensuite, et il sera tel qu'il se sera fait. Ainsi, il n'y a pas de nature humaine, puisqu'il n'y a pas de Dieu pour la concevoir. L'homme est non seulement tel qu'il se conçoit, mais tel qu'il se veut. Et comme il se conçoit après l'existence, et comme il se veut après cet élan vers l'existence, l'homme n'est rien d'autre que ce qu'il se fait.
Alors Orlan, vous étiez en train de crier, c'est un texte de Sartre qui dit « l'homme se réinvente », vous criez quoi ?
L'humain.
Et vous dites d'ailleurs « il faut crier », il faut crier. Là, d'ailleurs dans votre exposition actuelle au Musée Picasso, « Les femmes qui pleurent sont en colère », ce que vous faites, c'est que vous collez sur les tableaux classiques de Picasso, notamment Dora, la femme qui pleure, vous apparaissez vous-même en train de crier avec des yeux exorbités pour montrer cette souffrance qui a été invisibilisée au fond.
Alors, c'est pour parler, en fait, des femmes de l'ombre, de celles qui, effectivement, ont été des modèles, des inspiratrices, celles qui ont beaucoup donné pour la grande notoriété de nos grands maîtres. Et donc... En fait, ces œuvres, je ne les ai pas faites pour Picasso, parce qu'on ne peut pas lui faire son procès, puisque il ne pourrait pas se défendre, ni par rapport à Dora Maar, qui elle aussi ne pourrait pas se défendre, parce que pourquoi est-elle restée avec cet homme, on se le demande.
Comme les autres, d'ailleurs.
Comme les autres. Donc, moi, j'ai fait des œuvres pour, effectivement, que les femmes actuelles qui sont dans l'ombre, qui n'osent pas s'exprimer, les femmes qui sont des objets, non pas des sujets, et bien tout à coup se réinventent et à travers les larmes de Dora Maar, tout à coup s'émancipent et se mettent en colère, se mettent à hurler et sortent de cette idée d'être une femme de l'ombre.
Se réinvente exactement comme Sartre le disait dans ce texte qu'on a entendu. C'était l'existentialisme est un humanisme. Sartre qui disait voilà, on n'a pas d'essence. En fait, toute votre œuvre, c'est ça, de dire on n'a pas d'essence sociale, on n'a pas de déterminisme genré, on n'a pas d'essence naturelle. Et il y a cette idée de se réinventer et dans cette réinvention, de cesser aussi de se laisser objectiver comme ça par le désir des hommes. Alors, votre travail dans cette exposition au musée Picasso m'a fait penser à ce podcast que vous devez connaître, Vénus, épilait-elle la chatte, un podcast de Julie Bozac, où on comprend bien combien, comme ça, quelqu'un comme Picasso, si génial soit-il, eh bien, en fait, a utilisé des femmes en les laissant dans l'ombre.
Il n'y a pas que lui, hein.
Bien sûr. En les enfermant parfois à clé. Mais c'est quand même assez paradoxal, ces femmes qui ont été exploitées, asservies, invisibilisées, dans le moment même où elles étaient, comme ça, au centre de l'art et du tableau.
Oui, et quelle était la question ?
La question, c'est qu'est-ce que ça vous fait à vous, cette ambiguïté, ambiguïté à tous les plans ? Parce que Picasso, vous reconnaissez que ça reste un artiste incroyable malgré tout, et puis ces femmes...
Il est époustouflant, il est extraordinaire, on ne remet pas en question du tout ce qu'il a fait, c'est
et donc,
génial.
Mais donc comment on fait par rapport à ce mélange ? Est-ce qu'on peut trier les choses ? Qu'est-ce qui resterait de l'art si tout le monde se comportait bien ? C'est quoi le propos en fait de cette exposition au musée Picasso ?
Moi ce que j'aime c'est quand tout à coup il y a un art fantastique et qu'il y a un être humain ou une être humaine fantastique avec. Ça c'est vraiment ce qui m'excite intellectuellement et émotionnellement et esthétiquement.
Je comprends, mais j'insiste un peu. Quand on écoute ce podcast et même qu'on comprend votre démarche, on voit que Picasso, ce génie, s'est très mal comporté. Carrément, c'était presque un salaud. On apprend même dans ce podcast qu'il a laissé un de ses amis, qui était son colocataire, mourir dans un camp de concentration, alors qu'il avait la possibilité d'aller le chercher. Il a dit « il trouvera bien la fenêtre », des choses comme ça. Si on sort un peu du regard sur l'artiste, au fond, c'est dingue. Qu'est-ce que ça vous fait de penser qu'un artiste que vous admirez tant était véritablement un salaud ?
Eh bien, c'est la question que ça pose, c'est effectivement, est-ce qu'il faut plus exposer les artistes qui ont été des salauds ou qui le sont ?
On a la réponse. Je pense qu'on a la réponse. Il faut continuer à les exposer. Simplement, il faut faire de la pédagogie en même temps, non ?
Voilà. Voilà, parce que, de toute manière, si on se mettait à enlever des musées toutes les œuvres qui ont été faites par des salauds, des abominables, des porcs, eh bien, il faudra l'enlever beaucoup, mais il n'y aurait pas que dans le domaine de l'art. Il y aurait dans le domaine scientifique. Il faudrait se priver peut-être de certains vaccins. Il faudrait se priver de plein d'autres choses. Donc, c'est pas possible. C'est impossible. C'est impensable. Mais effectivement, qu'on les honore un peu moins, qu'on mette des bémols, qu'on réfléchisse ensemble sur ce problème. Et puis, surtout, qu'on ait un projet de société pour que les hommes changent et que les femmes changent.
Bien
parce
sûr.
Que qui fabrique des hommes pareils et qui fabrique des femmes pareilles ?
Vous voulez dire les mères ?
Il n'y a pas que les mères, il y a les pères et puis tout l'environnement. Mais on se dit qu'il doit bien y avoir un peu les mères, quoi. Mais il y a l'école, il y a plein d'autres choses. Mais quand même, il y a effectivement, on se pose cette question, c'est abominable. Moi, j'adore les hommes et les femmes. Mais effectivement, je déteste les porcs. Ceux qui, effectivement, hurlent, battent, violent, tuent, c'est absolument invraisemblable, quoi. Il faut que ça s'arrête.
Vous pensez que ce cliché qu'on a comme ça, qui a été véhiculé par des siècles, qui est que au fond le génie pourrait avoir du mal à être quelqu'un de moral, au fond qu'on pourrait tout pardonner au génie en raison de cette proximité du génie et de la folie. Est-ce que vous pensez que cette idée elle a fait son temps?
Oui, elle a fait son temps. Elle a fait son temps. Là, c'est vraiment quelque chose qui était là juste pour essayer que tout le monde soit assujetti aux hommes. Moi, je suis très très radical, je passe à autre chose, mais il faudrait interdire les religions. Parce que les religions sont fabriquées par les hommes, pour les hommes, et pour maintenir le patriarcat et la misogynie. Donc, ça, quand même, ça pousse là. Quand on voit ce qui se passe à l'heure actuelle aux États-Unis, par rapport à l'avortement et ce mec qui a été mis en place par Trump et quelques autres.
Mais c'est de la faute des religions ou de la bêtise ?
C'est les deux. C'est des gens très très religieux. Donc effectivement, c'est des gens qu'on a formaté comme ça et qui, alors eux, ne se sont absolument pas émancipés et pas posé de questions et pas pensé contre eux.
C'est terrible cette régression qu'on observe aujourd'hui dans le monde.
Moi, c'est comme si ma vie n'avait servi à rien. Toute ma vie, je me suis battu à la fois dans le privé, à la fois dans l'art et dans le public pour que les choses changent. Et pour qu'effectivement, les femmes comme les hommes fassent un couple qui soit un couple beaucoup moins pathologique.
Mais c'est vrai que quand on voit aussi, parallèlement, dans ce même monde que sur Instagram, vos œuvres n'ont pas le droit d'exister, parce qu'on ne peut pas montrer un saint sur Instagram.
C'est abominable.
Qu'elles peuvent exister dans des musées, mais pas sur Instagram. On a l'impression comme ça d'une régression, un peu comme quand il fallait mettre des petites culottes sur les tableaux.
Michel-Ange.
Voilà, de Michel-Ange. Qu'est-ce qu'on peut faire par rapport à ça?
Mais à part un suicide collectif, je ne sais pas ce qu'il faut faire. En tout cas, il faut chaque jour, effectivement, ne rien laisser passer. Moi, sans arrêt, et bien sûr à mes dépens, dès qu'il y a, par exemple, une femme qui dit « je suis Stéphanie, je suis Marie », et des femmes artistes qui signent avec un autre nom, je hurle, parce que les prénoms, c'est pour la crèche, c'est pour papa, maman, c'est pour l'amant, l'amante, mais c'est pas pour la société. On a deux codes. Moi, des maris, j'en connais 1000. Donc, si on me dit pas le nom à côté, c'est foutu.
Alors, c'est vrai qu'on entend dans votre propos cette espèce d'invention de la liberté. Ça me fait un petit peu penser à une de vos collègues, qui est Marina Abramovic.
I always believe that you have to find the joy in everything. That just the idea that was this life is given to us, and we have to die anyway. Why to die too early when we?
Because of too much suffering, probably.
But who make the suffering? Who create the limits? Who create the cages, you know, around ourselves? We are so incredibly responsible for our own destiny all the time. I mean, you know, in my life, I try to do everything possible to be free. To really be free, to not to have a husband I don't love anymore sitting at home and complaining, to have things that I don't want to have, to be free.
Ce que dit Marina Abramovic dans cet extrait que je vais essayer de traduire, c'est qu'on se donne sa liberté, c'est que on choisit sa cage aussi, c'est qu'on ne se définit pas par la femme d'un mari, et ça me fait penser un peu à votre idée de la liberté au fond.
Oui, en fait, Marina Abramovic est vraiment quelqu'un d'extraordinaire. Bien qu'on ait une différence qui est claire, moi j'ai écrit un manifeste qui s'appelle « Le manifeste de l'art charnel » où je dis que les corps ont trop souffert et qu'il n'est pas question de faire souffrir les corps. Moi, je suis pour le corps plaisir, alors qu'effectivement, c'est une artiste qui a toujours été effectivement dans la douleur et elle est poussée ses limites psychologiques et physiques. Mais elle le fait vraiment tellement bien et tellement magnifiquement que je l'apprécie beaucoup et que je l'aime beaucoup.
Je crois entendre ce que vous dites, c'est que dans ce dolorisme, il y a encore quelque chose de chrétien, au fond, et ça vous énerve.
Faire parce son
que
purgatoire pour vous, sur
voilà,
terre.
Parce que pour vous, il faudrait s'en libérer.
Se faire souffrir encore plus, alors que la vie nous fait tellement souffrir, et particulièrement la vieillesse et la mort.
Et donc, dans ce manifeste de l'art charnel, que vous avez fait dans les années 90, c'était avant d'ailleurs de faire vos transformations physiques sur votre propre corps, qui ont été, je rappelle, filmées et qui font partie de la performance. Et je précise que l'art charnel, c'est justement la réconciliation d'un corps et de la technologie. C'est pas simplement charnel au sens où on l'entend, c'est techno-charnel, on pourrait dire.
Oui, on peut dire ça, mais toute mon œuvre aussi est comme cela, c'est-à-dire il y a un squelette qui est le concept que j'essaye de mettre en place. Et puis, moi, je suis en fait une artiste conceptuelle qui aime la chair, qui aime la couleur. Et donc, je ne suis pas une artiste qui est dans la retenue, dans l'illisible, dans le presque dit, mais pas tout à fait, enfin, etc. quoi.
C'est vrai. D'ailleurs, vous êtes en face de moi et vous avez un incroyable gilet rouge avec plein de couleurs. Vous avez un rouge à lèvres, vous avez du brillant sur les paupières. Et puis, vous avez dit quoi? J'ai dit corne, c'est pas bien, mais vos...
Des bosses.
Vos bosses, voilà, sont pleines de paillettes fluorescentes.
Je t'aime fort et je veux te protéger, crois-moi, de ce que tu ne vois pas, ce que tu ne sais pas encore. Je t'aime fort, mais je ne vois plus. Ne sais plus qui tu es, face à toi je suis perdu. Toi que je pensais connaître si bien, je t'en prie, reviens. Oui, je veux te protéger, crois-moi.
Feu Chatterton, les magnifiques bijoux de fer.
Sous le soleil de Platon. Charles Pépin sur France Inter.
Alors écoutez, Orlan, ce qu'on vient d'écouter, c'était un peu un slow, j'ai l'impression. Et je vous dis ça parce que parmi votre créativité dingue, il y a aussi tous ces slows. Alors j'explique un peu. Vous écrivez des paroles de slow et vous les proposez de faire chanter à des groupes contemporains. D'ailleurs, beaucoup de groupes très France Inter, hein, Terre Noire, La Femme, les Chicks and Speed, Jean-Claude Dreyfus. Et après, vous intervenez comme, on va dire, activiste dans ces slows avec votre voix.
Oui, en fait, je leur demande de chanter et de faire la mélodie, et ensuite j'introduis ma voix, parce que je veux faire un album tout slow, je veux relancer le slow. Après cette période de distanciation physique, qui va peut-être recommencer parce que le Covid est là à grands pas, eh bien je pense que nous avons tous absolument besoin d'avoir un corps contre soi, un corps toucher. Humain, la chaleur, se toucher, la sensualité, la sexualité. Et c'est très bizarre parce que effectivement, mes assistants et assistantes n'ont jamais dansé le slow parce qu'ils sont trop jeunes. Mmh. Et je me suis dit, il faut faire quelque chose pour les jeunes. C'est indispensable. Je peux pas les laisser comme ça. Et d'ailleurs, dans mon livre Striptease, tout sur ma vie, tout sur mon art, qui est paru aux éditions Gallimard, eh bien, j'ai deux pages où je dis exactement ce qu'on faisait grâce au slow et ces deux pages torrides.
Racontez-nous un petit peu.
Oh non, 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 il faut que vous lisiez le livre.
Très bien, donc c'est chez Gallimard, c'est ça ? Sorti oui, en mars dernier, je crois. Et c'est très rassurant de vous entendre parler comme ça, parce que ça veut dire que on peut être fasciné par un devenir alter-humain, vous avez dit, tout en demeurant sensuel, en demeurant charnel. Et c'est important parce que souvent, ceux qui aiment bien le post-humain, il y avait un très beau livre là-dessus de Jean-Michel Besnier, que je vous recommande, qui s'appelle « Demain, les post-humains ». Mais Jean-Michel Besnier montrait...
Il est très contre les nouvelles technologies.
Il était méfiant parce qu'il se disait que peut-être le post-humain incarnait le retour de la figure de Dédale. Vous connaissez le Dédale de la mythologie grecque. Dédale, il se croit tout permis. On pourrait penser que vous lui ressemblez un peu. Mais jusqu'à ce que vous n'évoquiez la sensualité et le slow, on pourrait se dire que vous pensez comme Dédale qu'on peut tout corriger par la technologie, qu'on peut tout réparer par la technologie. Ce que dit Jean-Michel Besnier, c'est sa thèse, c'est qu'il y a parfois dans trop de fascination pour le post-humain ce qu'il appelle une honte prométhéenne, comme une haine de soi et de ses limites en tant qu'humain. Et j'ai l'impression qu'on est rassuré en vous écoutant. En fait, vous n'êtes pas comme ça, vous ne tombez pas dans ce travers-là.
Oui, en fait, moi, ce qui est vraiment très important dans ma vie, c'est la leçon que m'a donnée le baroque. En fait, les religions et la religion chrétienne nous demandent de choisir entre le bien ou le mal. Et on voit la Sainte Thérèse du Bernin qui jouit de la flèche de l'ange dans une extase érotique et extatique. Et pratiquement toutes mes œuvres sont basées sur ce « et ». Donc effectivement, je suis toujours dans le « et ». Et ça me... paraît vraiment très très important qu'on ne soit pas, je veux dire une chose qui va faire trembler tout le monde, dans la décroissance. Une société qui est dans la décroissance est une société qui n'invente plus, qui ne crée plus, qui est figée. Et donc, moi je suis pour la croissance, mais une croissance qui prend en charge les problèmes de notre époque.
Une augmentation.
Et qui, effectivement, arrive à trouver des solutions techniques. Par exemple, j'ai participé à une présentation à la Biennale de Venise d'un livre qui s'appelle « Milky Way », où effectivement des chercheurs ukrainiens ont trouvé à partir du lait le moyen de faire de l'hydrogène, le moyen de faire un combustible. Alors bien sûr, il faudrait vraiment beaucoup, beaucoup, beaucoup de femelles pour arriver à avoir suffisamment de lait, mais donc qui démontre qu'effectivement, on peut à la fois tout à fait... lutter contre ce qui est en train de se passer. Et effectivement, pour le moment, le climat nous le montre. On a trop chaud et ça va être de pire en pire. Donc c'est un problème extrêmement sérieux, mais qu'on peut prendre en compte d'une manière très sérieuse et trouver les moyens technologiques pour effectivement réparer les bêtises que nous avons faites pour le moment, parce qu'on les a faites d'une manière, on pourrait dire, téméraire, en se foutant complètement des conséquences.
Mais quand même...
Là, on peut prendre en charge les conséquences et essayer de les tourner dans le bon sens.
Mais au fond, si je me fais l'avocat du diable, Dédale aurait parlé comme ça. Il aurait dit, mais oui, je vais réparer par la technologie les problèmes que ma technologie a causés. Je rappelle un peu pour les auditeurs, il a créé le Minotaure, notamment parce qu'une reine avait une folie érotique, elle avait envie d'un Minotaure, alors elle le crée, il le crée, pardon, et puis après, le Minotaure pose des problèmes. Alors il dit, c'est pas grave, j'ai la solution, je vais créer un labyrinthe pour l'enfermer, et puis après, le labyrinthe cause un problème, puisque il se retrouve enfermé dedans avec son fils Icare. Il dit, c'est pas grave, j'ai encore la solution, qu'à cela ne tienne, on va créer des ailes artificielles. Les ailes artificielles qui ressemblent un peu à ces bosses que vous avez au front, finalement. Et quand même, ça finit mal, puisque Icare essaye de s'envoler avec ses ailes artificielles, dans lesquelles on avait placé tous nos espoirs, simplement en s'approchant trop du soleil, la cire fond et Dédale voir son propre fils mourir sous ses yeux. Alors quand même...
Mais vous savez, tout ce qu'on fait, on n'est jamais garanti que les conséquences ne seront pas abominables. Donc, et même la décroissance peut avoir des conséquences abominables. Mais aussi, ce qui m'étonne toujours beaucoup des écolos, d'ailleurs j'ai fait des vidéos là-dessus, en disant mais où sont les écolos ? Parce qu'en fait, le seul problème, c'est le problème de la démographie. On est trop sur Terre. Si on était la moitié, eh bien, on n'en serait pas là. Parce qu'effectivement, quoi qu'on fasse, même si on trie, même si on revient à la bougie, on pète. Et c'est un très, très, très mauvais gaz. Et il n'y a pas que nous, il y a tous les animaux.
Mais d'ailleurs,
et bien sûr, les vaches que l'on mange, qu'on élève, etc.
C'est surtout les, vous avez bien raison, on le sait maintenant, c'est surtout les pets des vaches qui sont responsables du trou de la
cause. Oui, mais enfin les nôtres aussi, il ne faut pas s'exclure. Et plus tous les autres. Donc, effectivement, il y a ce mauvais gaz. Et plus on sera nombreux et nombreuses, plus ça sera pire, donc il ne faut pas se raconter des histoires. Et quand on voit le truc contre l'avortement, mais c'est hallucinant, c'est un éco-crime de faire des enfants, c'est un éco-crime. Il faut arrêter, quoi. C'est complètement qu'on... fou, la Terre est surpeuplée, surpolluée.
À moins qu'on vive dans l'espace ou sur la mer.
Oui, on n'y est pas encore.
Alors Orlan, j'ai oublié de dire quelque chose qui est très surprenant, moi ça m'a vraiment étonné, c'est que vous êtes incroyablement reconnu. J'ai trouvé ça louche, comment vous pouvez être autant reconnu ? Chevalier de l'Ordre des Arts et des Lettres, médaille du Mérite, Légion d'honneur, résidence au Getty Research de Los Angeles, prix de l'irréputation désignant l'artiste le plus observé sur le web, prix d'excellence en Italie, c'est dingue. Ça c'est très humain, c'est pas très post-humain d'avoir autant de reconnaissance.
Bah écoutez, effectivement, moi je suis d'une génération, quand on faisait une exposition la plupart du temps en appartement, quand on avait 15 personnes, on trouvait que c'est trop, et quand on en avait 30 ou 40, on se demandait, mais là on n'a peut-être pas dit ce qu'il fallait dire. Mais vous savez, les décorations, ça fait pas de mal. Ça fait pas de mal, on fait une fête supplémentaire. Ouais. Et puis effectivement, moi j'ai quand même tout fait, toujours en galère et à l'arraché, parce que je ne suis pas né avec une cuillère d'argent dans la bouche. Et donc, effectivement, ces reconnaissances permettent aussi de continuer. C'est comme quand on vous dit tu es beau ou tu es belle, on devient plus beau et plus belle. Donc ça
on
donne
continue à
plus
devenir.
De courage, plus de confiance.
Bah, si c'est vu comme ça.
Vous qui avez écrit sur la confiance, c'est... c'est vraiment, et le courage, c'est vraiment très important
si
d'avoir
comme ça.
Un minimum de reconnaissance, parce que quand même toute ma vie, j'en ai pas forcément eu, parce que j'ai fait des choses extrêmement troublantes, extrêmement déréglantes,
et
qui étaient très critiquées, et même encore maintenant, et qui étaient, avec une résistance totale, mis complètement en dehors du milieu de l'art. Donc,
en tout cas, si la reconnaissance, loin de nous essentialiser, nous invite à devenir encore autre chose,
oui,
ça me va.
Devenir meilleur, c'est sûr. Vous savez ce que disent les Guerrilla Girls ? Est une femme artiste, c'est fantastique ! Parce que notre carrière peut exploser !
Et dans ce cri ?
80 ans.
Voilà, c'est
Vous voyez, j'ai fait une partie de la route, donc... Je ne peux qu'être très optimiste.
Alors on peut pas, on n'a pas le droit de vous demander votre âge puisque vous avez rayé de...
Ah, moi je suis né en 64, vous le savez bien, en 1964, quand j'ai fait Orlan accouche d'elle-même.
Ouais. D'elle-même, A-I-M-E bien sûr.
A-I-M-E, surtout pas l'autre.
Et est-ce que ces reconnaissances quand même permettent aussi de dealer avec la mort d'une certaine manière ? Et est-ce que tout votre travail...
Ah non, je ne dealerai jamais avec la mort. Moi j'ai fait une pétition contre la mort, j'espère que tout le monde va la signer. Parce qu'effectivement,
où est-ce qu'on peut la signer ?
Eh ben sur mon site, orlan.eu.
C'était quoi l'idée
Europe.
Alors ?
Eh bien, c'est quand même l'horreur totale.
Dédale revient quand même à travers votre tête, là.
Ah, vraiment, ouais. Vous êtes obsédé par Dédale. J'espère qu'après, vous serez obsédé par Orlan.
Alors, pour comprendre votre démarche, on va finir sur un exemple concret. Voilà, l'origine du monde de Courbet, pour vous, c'est monstrueux. Vous aimez Courbet par ailleurs, hein, mais ce tableau-là vous paraît scandaleux, mais pas au bon sens du terme. Hein, et vous avez proposé, vous l'avez changé par l'origine de la guerre. Alors, c'était quoi l'idée ? C'était quoi la démarche ?
Alors, c'est vraiment comme Picasso. C'est un très bon peintre, mais là, il a coupé la tête et les bras et les jambes d'une femme pour qu'il ne reste plus que le sexe et l'endroit de la procréation. Donc,
ça s'appelle quand même l'origine du monde, c'est pas très réducteur.
Non, si, dans la manière dont c'est présenté,
cadré.
C'est formulé visuellement, oui. c'est un serial killer sadique qui a coupé les têtes, les bras et les jambes. Donc j'ai voulu voir ce qui se passait avec un homme quand on lui faisait ça.
J'avoue que ça marche, hein. C'est hyper troublant. Je me suis dit, oui, mais merde, c'est vrai, c'est ça la réduction.
Et l'origine de la guerre, c'est assez amusant parce que il n'y a pas si longtemps, dans des manifestations, particulièrement contre Poutine, eh bien, il y a des manifestants qui brandissaient l'origine de la guerre.
Merci beaucoup Orlan, c'était passionnant de vous écouter, raconter un peu ce chemin. Ça nous a permis d'ailleurs de corriger certaines idées fausses que je m'étais faites, que pas mal de gens se font sur vous, notamment voilà, c'est pas tellement artiste total, c'est plutôt une bridation, c'est pas non plus post-humain, aveugle et fasciné par la technologie, c'est plutôt sensuel et technologique en même temps. On comprend en tout cas ce que c'est aussi qu'une vraie démarche complète sur une vie entière d'hybridation, d'aller dans tous les champs comme ça, la photographie, la structure, la chirurgie, les technosciences, la biogénétique, tout ça.
Oui, je voudrais dire qu'à l'heure actuelle, c'est vraiment un très gros problème de s'hybrider avec d'autres cultures. Donc il y a toujours ce problème de l'appropriation culturelle qui me paraît absolument ridicule. Et je me rappelle l'exposition qu'avait fait Jean-Hubert Martin qui s'appelait « Partage d'exotisme ». Ouais. Et je trouve que c'est vraiment ça, quoi.
Eh ben exactement. Et c'était, vous m'avez enlevé les mots de la bouche, mais c'est ça aussi, quelqu'un qui veut s'exprimer. Vous aimez bien cette idée de crier, de prendre la place et d'effacer comme ça, les essentialisations, les identifications, pour montrer qu'on ne cesse de devenir, de s'ouvrir, et ça fait du bien à sa multiplicité. Merci beaucoup, Orlan. Cette émission a été préparée par Vera Louderie et Fabrice Rivaud, réalisée par Camille Maty, à la programmation musicale Valentine Chedebois, à la technique Sybille Clamins. Quant à moi, je vous donne rendez-vous, mais vraiment rendez-vous, hein, pas un hasard, un vrai rendez-vous, demain matin à 9h, dans la caverne de France Inter, sous le soleil exactement de Platon.